Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Qui ne le connaît ? Le conteur, bien sûr, et l'homme de radio dont on aime entendre la voix, mais aussi l'écrivain qui écrivit entre autres l'Inquisiteur, les Cathares, la chanson de la croisade albigeoise, titre qui peuvent laisser penser qu'il n'est pas du Grand Nord. Mais aussi, il a écrit des chansons, et là je viens de l'apprendre, et je m'en excuse auprès de lui, je l'ignorais, et des chansons pour des chanteurs très célèbres, dont Mouloudji, il me semble, Juliette Gréco, les frères Jacques, et d'autres encore, il nous le précisera peut-être, et puis des chanteurs, un chanteur moins connu, mais tout aussi talentueux. Alors, mais revenons à ces contes, et on est pris de vertige, il y en a tant et tant, à travers les âges, à travers le monde, dans ce domaine-là, on ne lui en compte guère. Mais voici un autre ouvrage, original dans sa présentation et même dans son usage, s'intitulant « Le livre des chemins, conte de bons conseils pour questions secrètes ». Et c'est son auteur, Henri Gougaud, qui est venu nous en délivrer les mystères. Et nous sommes heureux de l'accueillir. Henri Gougaud, bonjour.
Bonjour.
Oui, Henri Gougaud, bonjour. Je ne sais pas si on nous a entendu nous saluer parce qu'il y avait un jingle. Alors oui, vous êtes venu en voisin, vous êtes de Carcassonne.
Je suis originaire de Carcassonne, oui, j'ai passé toute mon enfance à Carcassonne.
Et puis après vous êtes monté à Paris, je suppose, comment dire.
Non, je suis d'abord monté à Toulouse, parce que j'ai fait mes études à Toulouse, j'ai fait les études de lettres à Toulouse. C'était à une époque...
au bout de la rue Lotman.
Comment dit-on que... Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. C'était, oui, la fac de lettres était rue Albert-Lotman à cette époque-là. Oui.
D'accord. Oui. Alors, vous avez donc écrit des romans, des chansons, mais vous revenez toujours au conte. Pourquoi ?
Je ne sais pas, parce que c'est... comment dire, c'est peut-être une passion, j'allais dire c'est la passion de ma vie, mais c'est pas une passion, si c'est une passion, c'est une passion tranquille.
Oui.
Ça me fascine de plus en plus.
Plus vous enfoncez dans le thème, plus vous en découvrez la richesse.
Ah oui. Ouais. Oui.
C'est le fait de la spécialité.
Peut-être, oui. Oui, enfin, je pense que le conte, c'est la littérature des illettrés depuis toujours. C'est la littérature de des gens qui ne savaient pas lire ni écrire. Et puis, c'est la parole, quoi. C'est l'art de la relation, c'est la parole partagée. Je crois que c'est l'essentiel du patrimoine invisible de l'humanité. On s'est beaucoup soucié, on a bien fait, évidemment, de sauver les manifestations de l'art primitif, enfin le musée des arts premiers, etc. On a sauvé les contes aussi. Le XXe siècle est le siècle du sauvetage de la littérature orale.
En les écrivant.
Oui, parce que c'est aussi le siècle de l'ethnographie. Mmh. Et les ethnologues, qui sont allés partout sont des gens, et partout où parlent des gens, ils ont recueilli toutes les traditions orales. Ouais. On peut dire que le patrimoine oral de l'humanité est sauvé aujourd'hui. Ouais. Et ça a été la grande affaire du XXe siècle. Personne n'en a parlé, ça n'a
c'est
fait la une d'aucun journal, d'aucun 20
heures. Alors que c'est important, c'est vrai.
C'est essentiel.
Oui.
On a sauvé quelque chose de la mémoire de l'humanité, quoi.
Tout à fait.
Voilà.
Mais alors, vous, Henri Gougaud, vous collectez, vous compilez, je dirais, vous en créez aussi.
Ah non, pour ce qui concerne les contes, je peux dire que je fais partie, effectivement, des conteurs créateurs dans la mesure où il y a toujours eu deux sortes de conteurs, ceux qui transmettaient sans en changer une virgule l'histoire telle qu'ils l'avaient entendue, et ceux qui établissaient une nouvelle version de l'histoire. Voilà. Une nouvelle version de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils racontent l'histoire à leur manière. Mmh. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie. Je raconte l'histoire à ma manière. D'accord. Mais l'histoire reste une histoire traditionnelle.
D'accord. Vous n'avez jamais été tenté
d'inventer un conte. Aussi. Si, bien sûr, j'ai été tenté d'inventer des contes. Je l'ai fait secrètement, maintenant je peux vous le dire. Dans chacun de mes livres de contes, il y a un faux. C'est-à-dire un conte que j'ai...
Que vous avez créé de toutes pièces.
Que j'ai créé de toutes pièces. J'espère que ça ne se voit pas.
Mais pourquoi pas?
Mais parce que, vous savez, on ne peut pas... Les contes sont des histoires qui ont été polies par le temps, qui se sont chargées de la vie de chaque personne qui les a racontées. Vous n'imaginez pas, quand vous racontez une histoire traditionnelle, comme la foule de gens que vous avez derrière vous, qui ont fait que cette histoire est arrivée jusqu'à vous.
Mais dans 300 ans, imaginez tous les gens qui auront entendu votre conte à vous.
Mais peut-être qu'il se perdra, parce que il n'intéressera personne. Je crois qu'une histoire peut mériter le nom de conte au bout de au moins 500 ans quand même.
Il faut, pour le label, au moins 500 ans.
Il faut qu'elle ait survécu au temps, il faut qu'elle ait survécu à l'usure du temps, il faut que des gens l'aient nourrie de leur propre vie.
Oui.
Vous n'imaginez pas, vous savez, le plus ancien conte qu'on connaisse, parce qu'on ne connaît pas l'origine des contes en général.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un conte qui vient de Chine et qui est très ancien, c'est Cendrillon, quelque chose comme ça.
C'est le petit chaperon rouge.
Alors,
Septième siècle. Septième siècle après Jésus-Christ. Mais il y a plus ancien que ça. Le conte des deux frères a été écrit. La première trace écrite du conte des deux frères, c'est 1300 avant Jésus-Christ, c'est I premier en Égypte sur un fragment de papyrus. Et il venait de plus loin que ça, puisqu'on sait que quand on notait un conte, quand on l'écrivait, c'est qu'on avait peur de le
déjà,
perdre.
Oui. Moi, j'avais noté, alors je ne sais pas, là c'est vous qui êtes le spécialiste, que Cendrillon,
Cendrillon aussi.
Apparaît dans un manuscrit chinois vieux de 3000 ans.
3000 ans, ça me paraît beaucoup. Je ne sais pas, ça, je ne savais pas. Oui. Mais pourquoi pas, enfin,
mais écoutez, sous toute réserve, c'est Google qui me l'a dit. Hein.
Oui, mais en tout cas, cela montre que les contes, d'abord, sont de grands voyageurs et portés par le média apparemment le plus fragile qui soit, la parole humaine quand même.
La voix. Hein,
la voix, sans micro.
Ouais. Ouais, en plus.
Je veux dire, sans micro, sans radio, sans télévision, sans rien, de bouche à oreille. Quoi. Et ces histoires-là traversent tranquillement, de bouche à oreille, de seul à seul, d'être à être.
Ouais.
Traversent allègrement le monde et les siècles.
Tout à fait.
Sans se perdre. Non, mais.
Oui, c'est étonnant.
On devrait quand même se poser des questions, là, non ?
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle force il y a là ?
Le fait qu'on ne se pose pas de questions, on reviendra au conte, vous allez nous en parler. Mais j'aimerais qu'on parle d'abord de votre ouvrage, parce qu'il est passionnant, lui aussi. Et j'aimerais. D'abord, vous avez dit de vous que vous êtes un couseur d'histoire.
Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit
de moi. Ah bon,
ouais.
alors
mais
on laisse
pas tomber. J'aime pas le terme.
Alors, votre livre...
pas jouer au couseur, bon.
Oui, bon, mais d'accord. Alors, votre livre, c'est un recueil de contes, mais c'est aussi un jeu. Ça, c'est vous qui le dites.
Oui, oui.
Alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de thèmes abordés, mais à quoi servent alors les signer? Signer Kunungan, alors ça, je connaissais pas.
Le Kunungan, c'est un arbre de vie.
Oui.
C'est l'arbre de vie des marionnettes javanaises.
D'accord.
Traditionnellement, bon, les marionnettes javanaises qui sont traditionnelles racontent que de grands mythes, enfin bon, de grandes histoires. Je ne sais pas si vous avez jamais assisté à un de ces spectacles qui peuvent durer toute une nuit, même plusieurs jours. Enfin bon, mais le premier élément de décor que tout marionnettiste javanais pose sur son théâtre, c'est l'arbre de vie.
D'accord. Alors vous, donc votre ouvrage est fait de très nombreux contes. Je n'ai
123.
Pas... Voilà. Et chacun est suivi de trois au choix. Trois. Enfin, il y a chaque fois nos trois aphorismes ou proverbes ou citations.
Oui.
Voilà. Alors, et puis il y a ces signés, donc c'est signé Kunungan, donc arbre de vie. Alors, ça c'est très original. Donc, on prend un conte, au hasard.
Il y a une petite, un petit rituel qui consiste à poser la main sur le livre. Mais ça m'a été... Je préfère tout vous expliquer, ça ne vous,
oh,
ça
bien
vous
sûr.
Dérange pas. Pourquoi poser la main sur le livre et poser la question mentalement? Parce que Borges a dit quelque chose qui m'avait beaucoup troublé à une époque, parce que je ressentais ça comme très juste. Vous savez, Jorge Luis Borges, mm-hmm. bon, c'est pour moi un des plus grands écrivains du XXe siècle, qui est mort aveugle
oui.
Et qui est devenu aveugle à peu près au même moment où il est devenu directeur général de la bibliothèque nationale de Buenos Aires. Il est devenu aveugle au moment où il avait à sa disposition tous les livres du monde, quoi. Et il disait que il n'avait qu'à poser la main sur un livre pour savoir, pour sentir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je crois qu'il y a entre les livres et je veux dire un livre. Ça aussi, aujourd'hui, c'est un produit, alors bon, mais c'est un an de la vie d'un homme, au moins, parfois plus. Il y a quelque chose qui... Il y a de ma vie là-dedans.
Oui, et il y a de la vie du lecteur aussi.
Il y a de la vie, évidemment, parce que s'il ne donne pas de sa vie, il se passe rien. Donc, qu'il y ait ce contact entre le livre vivant... Mm-hmm. Et une main vivante qu'on pose la question et qu'on pose une question, voilà. Et il y a trois signés avec des gunungan, quoi, des arbres de vie au bout. On pose la question, on tranche dans le livre
au hasard
et on tombe sur une réponse. Et au dos du gunungan, de l'arbre de vie, il y a des petits trucs qui renvoient à l'une des trois citations de la fin du livre. De la
D'accord.
fin du compte.
D'accord.
Voilà. Alors, je dois dire que l'idée de ce livre, elle part de ce vieux truc qui dit que... Enfin, on m'a toujours dit, moi, qu'un bon conteur, c'est un conteur qui pouvait répondre à n'importe quelle question par un conte. Les contes répondent aux questions. Dans de nombreuses sociétés, ils sont faits pour ça. Pour répondre à des questions essentielles. Parce que les contes ne s'intéressent qu'aux choses essentielles.
Oui. Sur la vie, la mort...
La naissance, l'amour, la peur... Oui.
La sexualité aussi.
La sexualité, bien sûr. Oui. Il ne parle que de ces choses-là. Il ne s'intéresse qu'à ça. Et au fond, toutes les questions qu'on peut se poser renvoient plus ou moins à l'une ou l'autre de ces grandes questions, quoi.
Oui, oui. Alors, voilà, le mode d'emploi de votre ouvrage, de l'ensemble de ces contes, des contes courts, des contes... Et ça aussi, c'est important, finalement.
Oui, parce que... Les contes longs, en général, c'est qu'ils développent une intrigue romanesque. Enfin, bon, ils ont tous un sens profond. Mais il y en a qui sont plus ou moins romanesques.
Oui.
J'ai préféré aller au... Mais de fait, je n'ai pas choisi. J'ai joué le jeu jusqu'au bout avec ce livre.
Un peu au hasard aussi.
J'ai joué le jeu jusqu'au bout, je vais vous dire. J'ai écrit... Les contes sont dans le livre, dans l'ordre où je les ai écrits.
D'accord.
Je n'ai pas essayé d'établir un ordre particulier.
Quelque chose de rationnel.
Le mariage avec les citations, en fin de compte, s'est fait aussi au hasard. Mais enfin, de ce hasard qui n'existe pas, j'ai mis toutes les citations dans un chapeau, les numéros de compte dans un autre chapeau, et j'ai tiré.
Et puis c'est vrai. Et voilà. Et ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on s'approprie aussi ces phrases que
j'ai
mises.
Bien sûr.
Et voilà.
Mais toutes les phrases qui sont dans ce livre comme citation, c'est mon trésor à moi. C'est-à-dire que ce sont des... Je ne sais pas si vous faites ça, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Bon,
qui notent au...
Voilà, j'ai des carnets. J'ai eu toute ma vie des carnets sur lesquels une note de lecture, une phrase trouvée comme ça, qui nous a frappés. Voilà, tous mes carnets de citations ou de notes, ou trucs, ils sont là-dedans. C'est vraiment un livre nourri de ma vie. Et finalement... j'ai une ambition plus haute encore, qui est que, vous savez, à une époque où un livre est de plus en plus un produit, mais les éditeurs parlent de produit en parlant de livre, ça me blesse quelque part, je trouve ça blessant. Je me suis dit, je vais faire un livre qui aura une chance de devenir un ami. Parce que c'est un livre avec qui on va parler, à qui on va poser des questions, à qui on va, qui va donner des réponses. Ouais. Et ces réponses, on va dire, mais je ne comprends pas bien, mais explique-moi encore. Enfin, je ne sais pas. Oui. Il va y avoir un dialogue qui va s'établir. Et voilà, on peut peut-être faire un livre qui ne soit pas un produit, qui soit un ami des gens, qui les possède. Voilà.
Henri Gougaud, je vous propose une pause musicale. Et nous reprendrons avec un premier conte que j'aimerais bien que vous nous lisiez.
Volontiers.
Pour renouer avec une certaine
bien
époque,
sûr.
Pas si lointaine,
bien
où vous
sûr.
En lisiez.
Présence.
J'ai eu les sous, les femmes, et que sais-je encore. J'ai des amis pour toute une vie, et j'ai comblé tant de mes envies. La chance m'a déjà tant souri, tant reçu pour le cœur et l'esprit. Mais de ces cadeaux du ciel, il me manque l'essentiel. Une petite main qui dans ma main donnera un sens à mes lendemains. Une petite main qui dans ma main change l'horizon en un tour de main. Une petite main qui dans ma main donnera un sens à mes lendemains. Une petite main qui dans ma main change l'horizon en un tour de main. Change l'horizon en un tour de main. Oh, tout au long de cette route qui me fait saltimbanque, qui peut comprendre les doutes, savoir les manques. En quête de sens, de vérité, d'insouciance et de liberté, d'une existence enfin comblée. Enfin comblée, maintenant j'attends, oh oui j'attends. Une petite main qui dans ma main donnera un sens à mes lendemains. Une petite main qui dans ma main change l'horizon en un tour de main. Une petite main qui dans ma main donnera un sens à mes lendemains. Une petite main qui dans ma main change l'horizon en un tour de main. Je l'ai avoué, j'enviais le bonheur de ce père revenant de l'école, racontant à sa fille les histoires les plus folles. Oh, je voulais ça pour moi. J'attendais qu'elle naisse, j'attends plus. Et bienvenue Inès. Change l'horizon en un tour de main. Une petite main qui dans ma main donnera un sens à mes lendemains. Une petite...
petite main qui dans ma main change d'horizon en un tour de main. Une petite main.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Henri Gougaud venu nous présenter, nous parler de son livre, le livre des chemins, conte de bons conseils pour questions secrètes. Alors, Henri Gougaud, j'aimerais bien que vous nous lisiez donc un premier conte. Il s'agit du Songe vrai, il est à la page 98.
Ouais, c'est un conte qui a une... qui a une histoire, mais enfin, je ne sais pas, c'est une histoire personnelle. Je crois que c'est le premier conte qui a été tiré. C'était sur manuscrit, le livre n'était pas encore édité, à quelqu'un d'une amie que, voilà, qui a voulu poser la question, et qui a posé une question à propos d'un deuil récent. Et elle est tombée sur ce conte, ce qui l'a complètement
bouleversé.
Moi aussi, d'ailleurs, parce que je n'imaginais pas que ça puisse être aussi précis comme réponse. Quoi. Je vous le lis alors.
Oui.
Il était une fois une fille au grand cœur. Bonne, elle l'était assurément. Qui pouvait dire le contraire ? Elle s'évertuait à bien faire, elle était serviable, aimante, trop sensible, inquiète d'un rien. Bref, elle était infatigable à vouloir le monde parfait. Or, le malheur tomba sur elle. Sa mère mourut dans ses bras d'un coup de sang un soir d'hiver. Elle en resta inconsolée. Le printemps revint. Pas pour elle. Elle pleurait et pleurait toujours. Qu'elle ouvre une armoire et revoit un vêtement de la défunte, elle s'agenouillait et pleurait. Qu'une voisine se souvienne devant elle du temps passé, à peine dit, pour le bénir, le nom de sa mère, elle pleurait. Le curé, un jour, après vêpres, elle avait inondé de larmes sa robe noire et son missel, la prit par l'épaule et lui dit « Ma fille, allons, sèche tes yeux !» Je sais bien, ta mère te manque. Tu voudrais la revoir, pas vrai ? Certes, oui, monsieur le curé, elle renifla, mais je ne peux. Il se pencha à son oreille. Crois-tu cela ? Écoute donc. Si je t'offrais de te conduire au seuil du village des morts, et si tu pouvais voir un instant ses rues, ses maisons, sa fontaine, ses gens aussi, et parmi eux, celle qui te fait tant souci. Qu'en dirais-tu, ma bonne enfant ? Que vous êtes sorcier, mon père. Je le suis, fille, mais motus. Couche-toi ce soir à minuit et croise les mains sur ton ventre. Par la vertu du talisman que je te glisse entre les seins, tu partiras en songe vrai. Tu nous en reviendras vivante. Que Dieu le veuille, s'il lui plaît. Le soir venu, à l'heure dite, chandelle éteinte, yeux fermés, la voici soudain qui s'éveille dans un vieux village inconnu. Il y fait doux, malgré la brume. Les gens vont par les rues pavées, des vieilles sur des bancs tricotent, des hommes jouent au domino à la terrasse de l'auberge. Elle n'ose parler à ses morts. Elle cherche sa mère. Elle l'appelle, toute timide, à voix d'enfant. Elle la voit enfin qui s'en vient, courbée sur deux grands seaux qu'elle traîne, au bout des bras, plein à ras-bord. Elle est hargneuse, fatiguée. « Que fais-tu là, mauvaise fille ? Je viens voir comment vous allez. Oh, ma mère, ma pauvre mère, permettez-moi de vous aider, ces fardeaux vous brisent l'échine. M'aider, folle ! Tu le ferais si tu cessais de me pleurer. Ces seaux sont remplis de tes larmes, qu'il me faut charrier partout. Quand me laisseras-tu en paix ? Elle s'éloigne dans la grisaille. Sa fille revient à son lit. Dès levé, le matin venu, elle s'en alla voir le curé. Elle lui conta le songe vrai. Il dit « C'est bien ». Elle dit « Merci ». Elle fit chez elle un grand ménage, manches troussées, jupons aussi.
Voilà.
Voilà.
Voilà, ça signifie donc que les contes nous apprennent toujours quelque chose. Parce que vous nous avez pas lu ce qu'il y a à la suite.
Ah, les citations, mais non.
Alors, voilà, parce que pour nos auditeurs, peut-être que ça les intéresserait de savoir ce qu'on leur propose. C'est-à-dire, je reprends, voilà, alors, je ressemble aux oiseaux, j'apprends à chanter dans les ténèbres. C'est de Diderot. Enfer chrétien du feu, enfer païen du feu, enfer mahométan du feu, enfer hindou des flammes, à en croire les religions, Dieu est un rôtisseur. Victor Hugo. Là, il y a beaucoup d'humour. Et enfin, faire souffrir est la seule façon de se tromper. C'est d'Albert Camus. Ouais. Alors, Albert Camus, ça tombe bien. En ce moment, on en parle beaucoup.
On ne parle que de lui.
Voilà. Et donc, voilà, suivant le signé que nous aurons pris...
On tombera sur l'une des trois citations après le conte.
Voilà. Donc, effectivement, la sagesse des contes, elle existe bien. Puisqu'on dit même que les psychanalystes, enfin, on le sait, Françoise Dolto a écrit un livre là-dessus, ils trouvent aussi beaucoup de choses.
Oui, mais c'est pas la psychanalyse. Je veux dire, la psychanalyse des contes, on peut psychanalyser des contes, mais c'est comme faire une autopsie. Voir ce que le conte a dans le ventre, il faut qu'il soit mort pour ça. Moi, les contes vivants seuls m'intéressent. Vous savez, ils m'ont appris quelque chose. Ils m'ont appris beaucoup. Mais entre autres choses, ils m'ont appris à être peut-être un peu plus poli, un peu plus respectueux, même avec les choses, pas seulement avec les gens. Comment vous dire ? Pour moi, les contes sont des êtres vivants. Je ne me permettrai pas, simplement par politesse, de leur demander quelque chose qu'ils n'ont pas envie de me dire. Je n'ouvrirai pas le ventre d'un conte pour voir ce qu'il a dedans. Je fréquente le conte, je lui parle, je lui pose des questions, j'espère qu'il me répond, j'essaie d'établir des liens d'amitié avec lui. Mais comme avec un être vivant, comme avec un ami, l'ami me dit ce qu'il a envie de me dire. Je ne vais pas le passer à la torture pour qu'il m'avoue des choses, je ne sais pas quoi.
Oui, c'est une forme de pudeur finalement. Oui.
Je ne dirais pas ça.
De respect.
Je dirais que
vous avez utilisé le mot respect.
C'est une manière de se conduire. Mmh. Ça peut paraître bizarre ou idiot. Les contes m'ont appris ça, qu'il y avait une manière brutale de se conduire avec les choses inquisitoriales, impératives. Et il y a quand même une autre approche des choses, une autre approche. Je pense là à, j'ai dit poli, mais avec une idée derrière la tête. Je suis allé au Mali dans les années 80, j'ai passé un mois et demi à fréquenter les conteurs, à recueillir des contes, et j'ai rencontré un conteur, mais qui est devenu un ami, Bambara, et il m'a fait beaucoup circuler dans les villages autour de Bamako, tout ça. Et bref, un jour on parle et il me dit, il me parle en riant d'un ethnologue qui est venu dans son village et ça le faisait beaucoup rire de me dire que son oncle et son père lui avaient raconté n'importe quoi. Il l'avait mené en bateau, il lui avait raconté des bobards, des trucs. Et je lui dis, mais pourquoi quand même, c'est pas bien, le type, il venait...
Il s'intéressait à eux.
Il s'intéressait à votre culture, tout ça, pourquoi... Et là, il est redevenu sérieux, tout à coup, parce qu'il n'a pas été poli. Mais pourquoi il n'a pas été poli? Il vous a insulté, il vous a... Non, il ne nous a pas insultés, il aurait pu manquer que ça. Mais il est arrivé avec son appareil photo, son carnet de notes. Il ne nous parlait pas. Quand il nous parlait, il prenait des notes. C'est une façon de parler aux gens, ça. Puis s'il avait quelque chose à nous demander, il aurait dû d'abord frapper à la porte. C'est comme ça qu'on fait quand on rentre chez les gens, non. On essuie ses pieds au paillasson, on frappe à la porte, on attend qu'on vous dise de rentrer pour rentrer. Si ce que vous avez à demander est important, vous avez porté un bouquet de fleurs pour la maîtresse de maison. Enfin, bref.
Oui.
Voilà.
Ils se sentaient plutôt objet d'étude qu'individu.
Oui. Oui. Et donc, il n'a pas été poli, nous non plus.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Il m'a appris et il m'a dit après. Il s'est étonné et il m'a dit, mais enfin, toi, tu devrais savoir ça. Tu connais tellement de contes. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai. Comment je comment peut un conte qui est un être vivant, c'est pas, je dirais pas qu'il est pour moi un être vivant, il l'est. Mmh. Ne serait-ce que par le nombre de vies qui ont nourri cette histoire avant qu'elle nous parvienne. Je ne peux pas me conduire comme un gougnafier avec ces choses-là. Je ne peux pas. C'est pas. J'ai envie d'être leur ami. Je ne vais pas leur demander leur carte d'identité. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, la première chose que vous faites, c'est de demander sa carte d'identité. Quand même, enfin.
Bien sûr. Alors, je ne sais pas si on doit faire une pause musicale. Oui, paraît-il, oui. Ça arrive bien vite avec vous. Hein. Il va falloir plusieurs séries. mais ensuite, nous parlerons de ces contes pour adultes, parce que en fait, en France, on avait tendance à penser que les contes, c'était des contes pour enfants. Or, ça redevient aussi conte pour adultes.
Oui, mais ça n'a jamais cessé de l'être.
Oui.
Vous voulez qu'on passe à la musique, là ?
On va d'abord passer à la musique. D'accord.
Présence.
Je me fais du pouce dès que maman se pousse. J'ai pas marché, tout juste tombé. Mais quand je tombe, c'est un spectacle. Et tout le monde attend le miracle. Ça tombe bien, je vais justement me relever plus grand. Prochain dossier, comprendre les grands, départager les bons, les méchants. Je prends de l'assurance, déjà je cours. J'attends ma chance de sortir de la cour. Mais comme je tombe à chaque obstacle, j'ai vu mon ombre prête à se battre. Ça tombe bien, j'allais justement me relever plus grand. Au mi-temps du sentier qui descend vers le bois, m'avais-tu vu tomber en amour avec toi? Les pieds dans neige, les yeux dans l'eau, je fondais à l'aige. Le cœur au chaud. J'suis pas à veille de m'en relever. J'suis ben trop ben le cœur plus grand. Avant que ma vue tombe en cataracte, j'veux voir mon ombre droite sur ses pattes. Je tombe en plein spectacle, traquer ma tombe pour une caisse de guitare, un pied dans la tombe, l'autre dans la cour au miracle, le rideau tombe, clou du spectacle. Ça tombe bien, je vais enfin voir la lumière au bout du chemin. Ça tombe bien.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Et nous revoici en compagnie d'Henri Gougaud et nous parlons des contes grâce à son livre, Le Livre des Chemins, nouvel ouvrage, très bel ouvrage d'ailleurs, très belle présentation je trouve. Ouais, c'est agréable.
Oui, oui, bon, on a essayé de faire un bel objet aussi.
Agréable. Voilà, alors c'est le livre des chemins. Tout à l'heure, juste avant la pause musicale, je parlais des contes pour enfants, des contes pour adultes. Bon, dans ceci, il y a beaucoup de contes que les enfants entendraient très bien. Mais c'est quand même là, c'est à l'usage des adultes.
C'est à l'usage de qui sait lire, c'est à l'usage de qui a envie d'entendre des histoires, c'est à l'usage de tout le monde. Les contes ont toujours... Cette manie occidentale et moderne que nous avons de tout saucissonner par tranche d'âge, par tranche de toutes sortes, enfin bon... C'est pas parce qu'une pomme un enfant peut la manger qu'un vieillard ne peut pas s'en nourrir aussi. Les contes, c'est comme les pommes, voilà. C'est bon pour tout le monde. D'autre part, pourquoi on a considéré que les contes étaient de la littérature pour les enfants?
Mais c'est vrai, on l'a pensé quand même.
Chez nous?
Oui.
En Afrique, ça n'a jamais été le cas. Dans l'Amérique indienne, ça n'a jamais été le cas. En Extrême-Orient, ça n'a jamais été le cas.
Alors pourquoi en France?
Pourquoi en France? En Occident.
En Occident,
en
oui.
En Occident. Parce que la culture, le signe du pouvoir culturel, c'était la possession de l'écriture et de la lecture. Qui savait lire et écrire? Au Moyen-Âge, c'était un clerc. C'était donc quelqu'un qui détenait un pouvoir que lui donnait ce fait de savoir lire et écrire. Bon. D'où la prééminence de l'écrit peu à peu sur l'oral. On a commencé à écrire des lois quand même. C'est la première chose qu'on ait écrite, des lois. Voilà. Puis enfin, ce qui était écrit était considéré comme... plus important que ce qui était oral, parce que c'était la chose des clercs qui étaient les classes supérieures de la société, quand même. Donc, les contes, littérature orale, non écrite, c'était la littérature des pauvres. Puis les hommes ont su lire et écrire, avant les femmes. Et donc, il y a eu ce mépris pour ceux qui... Bon, d'accord. C'est devenu les histoires de bonnes femmes.
Oui. C'était presque une question de classe.
C'était une question... Parce que les femmes sont restées plus longtemps ignorantes que les hommes. Donc, des histoires de bonnes femmes. Et puis, les femmes sachant lire et écrire, qui restent comme derniers ignorants? Les enfants. C'est pour ça que les contes ont été considérés comme la littérature enfantine. Je veux dire que ça a été, d'une certaine manière, et à certaines époques, une bénédiction. Parce que, au moins, que les contes soient méprisés des puissants leur a permis de traverser tranquillement les siècles.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se serait passé, selon vous?
Si les puissants n'avaient pas méprisé les contes...
Ils les auraient modifiés?
On a des exemples. On a deux exemples, l'un relativement récent, l'autre médiéval. Les exemples-là et ceux que les pays communistes ont fait des contes. Les pays communistes, l'URSS a été des grands collecteurs de contes du XXe siècle. Hein. Je veux dire qu'ils sont collés et bien collés. Mais ils ont... tordu des contes, modifié des histoires pour que le beau rôle revienne au héros populaire contre le méchant patron, etc. Les exemples-là au Moyen-Âge, c'était des contes récupérés par les prêtres qui les racontaient au sermon du dimanche pour édifier... leurs ouailles. Oui. Mais pour ce faire, ils les modifiaient, ils les tordaient, ils les arrangeaient à leur sauce.
D'accord.
Toutes ces versions, on a encore des exemplaires qui ont survécu. On a des contes à la sauce marxiste parce que c'est pas si ancien que ça, mais c'est des versions qui ont disparu. Qui n'ont pas pris. Ce sont des plantes qui n'ont pas pris. Voilà.
Donc il vaut mieux les laisser. Une question, Henri Gougaud, avant de nous quitter, parce que le temps passe trop vite. Mais vous rendez compte, c'est pas normal ça. Hein. Les contes, ils nous montrent le chemin pour être plus heureux finalement, non?
Ils nous montrent le chemin pour être plus vivant. Le plus ancien conte connu de l'humanité, le conte des deux frères, Séti Ier, l'Égypte, raconte l'histoire d'un homme qui est tué, qui renaît dans un germe de saule, je crois, qui est... c'est l'histoire de la vie increvable. L'histoire de la vie increvable, sans cesse réincarnée, sans cesse revenue. La mort ne peut rien contre la vie. C'est ce que dit ce conte des deux frères, et c'est le plus ancien de l'humanité.
Et celui que vous nous avez lu, c'est ça aussi.
C'est ça aussi.
Il faut continuer à vivre.
Mais bien sûr. Oui. C'est le conte, c'est la littérature de la vie. Il ne parle que de la vie. Il ne parle pas du monde. Il ne parle pas du monde. Je fais une grande différence entre le monde et la vie. Le monde, c'est le lieu dans lequel la vie s'incarne. Il ne faut pas confondre les deux. Hein?
Alors, une dernière question, Henri Gougaud. Est-ce qu'il faut... Vous nous conseillez de lire vos contes à haute voix?
Ah oui, mais bien sûr, non pas de les lire, de les raconter.
Mais tout le monde n'a pas votre talent. Parfois.
Mais c'est pas grave, c'est pas ça, c'est pas une question de talent. C'est pas une question de talent. Pas du tout. Ça aussi, il faut en finir avec la performance. Le sommet de l'art du conteur, vous savez ce que c'est le sommet de l'art du conteur?
Non.
C'est d'arriver à raconter dans le même état intérieur qu'une mère raconte une histoire à son enfant le soir pour l'endormir. C'est d'essayer d'établir cette intensité de relation entre les deux, de faire germer de l'amour. Faire germer de l'amour, c'est pas une question de style. Voilà.
Un grand merci Henri Gougaud, un grand merci, et puis on aimerait que vous reveniez pour nous parler de contes.
Mais quand vous voulez.
Alors, il s'agit, voilà, donc on prend rendez-vous. Il s'agit du Livre des chemins que j'encourage nos auditeurs à lire, édité chez Albin Michel, Henri Gougaud. Merci.
Merci à vous.